France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment accompagner les élèves turbulents, ces enfants qui dérangent à l'école? Agitation, opposition, difficultés d'apprentissage, isolement, des enfants qui inquiètent parents et enseignants. Comment expliquer ces comportements? Que racontent ces conduites inadaptées? Quelles sont les pistes et les actions concrètes, l'organisation à mettre en place pour réconcilier ces élèves difficiles avec l'institution scolaire? Éléments de réponse avec nos invités au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000. Ainsi que sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour docteur Anne Reynaud.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre pour enfants et adultes, vous êtes fondatrice et directrice des instituts de la périnatalité et vous publiez chez Marabout un ouvrage très intéressant, Cet enfant qui dérange à l'école, sous-titré Les clés concrètes pour aider les enseignants et les parents à mieux l'accompagner. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation, directeur de recherche au sein du service des sciences de la famille à l'université de Mons en Belgique. Prochain livre à paraître le 23 avril prochain chez Mardaga, l'éducation à la résilience. Alors nous avons tous connu des élèves hein, qui perturbent la classe, des comportements inadaptés qui désorganisent l'école. On va préciser les choses au cours de l'émission, docteur André Nou, pouvez-vous nous donner des exemples concrets?
Alors l'exemple le plus typique et le plus bruyant, c'est effectivement l'enfant qui va pas forcément suivre les règles imposées par la classe, par le collectif, qui va peu s'intéresser aux apprentissages. Et puis si on monte un petit peu le niveau, on va retrouver des enfants qui peuvent devenir provocateurs, qui peuvent devenir opposants, voire même agressifs, qui vont pouvoir agresser dans la cour, agresser dans la classe. Donc tous ceux qui vont finalement mettre à mal le groupe classe et le système collectif. Et puis je voudrais aussi insister sur ces enfants qu'on voit moins et qui sont moins bruyants, mais qui pour autant vont nous témoigner finalement aussi d'un niveau de stress, en tout cas d'anxiété et de difficultés importantes. C'est ces enfants en retrait, ces enfants trop sages, ces enfants qu'on voit peu au début et puis qui parfois aussi peuvent nous inquiéter. Donc dans ces enfants qui dérangent, c'est vraiment cette globalité, pas forcément ceux qui font beaucoup de bruit.
Bruno, mec, au fond, c'est quoi un élève turbulent? Dans le Robert, turbulent désigne la personne qui est portée à s'agiter physiquement, qui est souvent dans un état d'excitation bruyante, synonyme agité, bruyant, remuant. Pour vous, il est important de définir ce qu'est un enfant turbulent.
Oui, parce que tout ne dépend pas de lui. En fait, c'est un enfant qui est désorganisé en fait, dans ses comportements. Et globalement, c'est un enfant qui n'obéit pas à des règles. Soit parce qu'il ne comprend pas qu'il faut obéir à ses règles. Alors, il y a plusieurs raisons possibles. Hein. Les règles n'existent pas. C'est rare, mais c'est aussi des environnements qui peuvent se produire. Soit elles ne sont pas suffisamment claires et explicites. Et une règle, elle doit être claire et explicite. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a un petit truc tout simple pour vérifier si la règle est vraiment une règle, c'est de pouvoir la dessiner. Les panneaux routiers, ce sont des symboles. Personne ne va les contester. Et donc, une règle, c'est quelque chose qui doit pouvoir se dessiner. Et il y a aussi une des raisons qui explique qu'un enfant comprend pas qu'il doit obéir à des règles, c'est l'absence de conséquences à l'infraction de la règle. Alors ça, c'est les enfants qui ne comprennent pas qu'ils doivent obéir à des règles. Il y a aussi ceux qui ne comprennent pas que les règles sont différentes à l'école et à la maison. Lever son doigt, par exemple, pour demander la parole, c'est une règle scolaire. Si vous le faites au souper en rentrant chez vous, on va vous dire, mais t'es plus à l'école. Parce qu'une règle, ça dépend d'un territoire, elle varie d'un territoire à l'autre, et elle suppose que l'enfant a compris qu'il n'est plus un enfant, qu'il est devenu un élève. Aucune maman n'accouche d'un élève. C'est l'école qui crée les élèves, ils font des écoliers, puis des élèves, puis des étudiants.
Docteur Anne Reynaud.
Ah, qu'est-ce que c'est important d'entendre cette notion de cadre, de règles. Effectivement, dans une société qui s'interroge hein, sur les règles et les cadres éducatifs, il faut être extrêmement clair. Et l'enfant, il a besoin de cette clarté. Et ça va le sécuriser. Et la sécurité est au cœur de son besoin et de ses besoins fondamentaux. Donc, faut poser ce cadre. Et beaucoup d'enfants n'ont plus cette notion, que ce soit à la maison ou à l'école aussi, ils ont du mal à les identifier.
Alors ce sont des comportements de plus en plus fréquents et qui inquiètent hein, sur l'avenir de ces enfants, docteur Anne Reynaud.
Oui, clairement, aujourd'hui, ce livre livre, il est l'issue de mon exercice aussi du quotidien, où je rencontre les enfants, où je rencontre les parents, où je rencontre les enseignants dans les équipes éducatives, et où je vois une majoration d'année en année de l'expression de souffrance de l'enfant, hein, avec aujourd'hui des tableaux dès le plus jeune âge, avec même des idées suicidaires, ce qui est très très, ben, très éprouvant pour eux, mais c'est vraiment très marqué, et on l'observe beaucoup. Des parents démunis, des adultes qui veulent plus devenir parents, et des enseignants qui sont aussi perdus par rapport à leur mission, et on sent à quel point ils sont engagés, mais cet engagement est mis à mal, finalement, par cette expression d'une insécurité qui va devoir être, pas tout doit pas être psychologisé, mais au moins compris pour pouvoir donner du sens. Parce que si on donne pas du sens, on parlait de résilience, la résilience, c'est donner du sens. C'est pas tout de pathologiser ou psychologiser, mais il faut le comprendre.
Bruno Humbeck.
Alors, il faut aussi comprendre que l'école est un révélateur de ces difficultés, parce que l'école a changé très fort. En fait, pour expliquer très, très schématiquement comment l'école a évolué, il fut un temps où l'école, c'était considérer l'enfant comme un vase à remplir. C'est les pédagogies dites traditionnelles. Et là, il fallait des enfants sages qui obéissaient, qui acceptaient de jouer ce rôle de vase à remplir. Puis, sous l'effet de la pédagogie active, ben, l'enfant est devenu un feu à allumer, à activer. Ou, sous l'effet de la pédagogie traditionnelle, une lumière à éclairer. Et sous l'effet de la pédagogie positive, la petite dérive à laquelle on a assisté, c'est qu'on a parfois l'impression que certains enfants sont considérés comme des puits de pétrole à exploiter. Ils ont des compétences, ils ont des hyper-compétences. Si elles ne sont pas révélées, ben c'est la faute de l'école. Et donc l'enfant, finalement, son mandat, dans un premier temps, c'était d'obéir pour recevoir le savoir. Maintenant, c'est se développer de manière optimale en utilisant l'école comme support de ce développement.
Important de pouvoir identifier aussi toute la charge qui repose sur l'enfant dans ces cas-là, parce que dans cette notion de définition qui évolue, effectivement, ça va dépendre de l'enfant, et on voit comment c'est très facilitant d'imaginer que l'enfant a un trouble ou une difficulté, et que le système se dédouane et se déresponsabilise. Et donc là, l'idée, c'est aussi de venir questionner ça, questionner aussi les connaissances actualisées sur le développement de l'enfant. Les enseignants sont peu formés à ces notions-là, alors qu'ils en ont fondamentalement besoin, parce que discuter et interagir avec l'enfant, ça va aussi justifier l'enfant, qu'on l'appelle l'enfant ou l'élève, ça va justifier un certain nombre de connaissances. Et on les sent en difficulté pour mieux décoder tous ces signaux, et c'était l'objet aussi de cet ouvrage, pour les éclairer.
Oui, je pense que c'est important, parce que la pression sur l'enfant, elle est énorme. Auparavant, quand on demandait à un enfant, il revenait de l'école, on demandait « t'as bien travaillé ». Maintenant, on lui demande « ça a été ». Ça veut dire qu'il doit effectivement garantir qu'il s'est épanoui le mieux possible, et ça veut dire aussi, effectivement, pour lui, se développer. C'est parfois aussi transgresser des règles, parce que l'élève passif, et c'est ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que l'élève passif, il est vécu aussi comme un élève à problème. Effectivement, celui qui est actif, qui bouge trop, est un enfant turbulent qui pose question, qui pose problème, mais celui qui ne bouge pas, celui qui ne va pas construire lui-même ses savoirs, mais il est vécu aussi comme un élève à problème.
Et docteur Anne Reynaud, dans votre cabinet, ces élèves qui dérangent à l'école vous parlent de leurs difficultés d'apprentissage, de la pression qu'ils subissent, ainsi que de leur altercation avec leurs camarades ou leurs enseignants.
Oui, c'est vraiment leur quotidien. Il faut comprendre que l'enfant, alors moi je vois plutôt des petits, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans la petite enfance, et que aujourd'hui on a développé la politique des 1000 premiers jours, mais il faudrait l'élargir sur les 5 premières années, et surtout ce qui se passe à la maternelle. Et aujourd'hui, pour revenir sur la pression qu'on leur met, les programmes scolaires ont changé en France, spécifiquement en France, puisqu'on a un plan maternel qui a été promulgué et qui impose l'école obligatoire à 3 ans, pourquoi pas, hein, dans la socialisation et dans l'apprentissage des relations avec les autres, mais on a imposé aussi les matières fondamentales maths et français avec des attendus scolaires, avec des bulletins scolaires, des bulletins scolaires et des évaluations qui se font chaque semaine. Hein, ça amène effectivement une pression massive, alors même que l'enfant n'est pas équipé. C'est un peu comme si on imaginait faire marcher un enfant de 4 mois. Ça nous semble totalement aberrant. Eh ben, on est un des seuls pays à décider d'avoir avancé ces fondamentaux. Tous les autres pays les retardent. Ça ne veut pas dire que c'est pas l'école qui est en cause, mais c'est en tout cas un questionnement réel sur ce qu'on attend de l'enfant et sur les programmes pédagogiques qui sont mis en œuvre.
Le regard du Belge, Bruno Humbeck.
Alors, est tout à fait d'accord en fait avec le mécanisme qui suppose, par exemple, de confondre un enfant doué avec un enfant précoce. Quand on a utilisé ce mot précocité, on a effectivement supposé que la rapidité des apprentissages était la garantie de leur qualité. Or, on le voit dans les expériences sur les jumeaux monozygotes. Si vous forcez un des deux jumeaux à grimper plus facilement les escaliers, c'est-à-dire qu'il va le faire de façon plus précoce, et puis l'autre, vous lui laissez prendre son rythme, prendre son temps, vous allez constater effectivement que celui que vous avez stimulé va monter plus jeune les escaliers, mais il sera moins assuré et moins stable dans la durée, parce que l'apprentissage solide, c'est un apprentissage qui prend du temps. Et les enfants d'ailleurs surdoués, qui posent beaucoup de problèmes à l'école, sont souvent des enfants qui ont eu un apprentissage trop facile. Lorsque c'est facile, eh bien on fait peu d'efforts, et c'est l'effort et le temps qui sont les deux garanties de la qualité des apprentissages. C'est pour ça que c'est vraiment important de changer le modèle et le regard social, et ce que j'entends sur l'idée de tout mettre finalement plus précocement comme acquisition à obtenir, c'est effectivement partir dans la très mauvaise direction. Il faut au contraire laisser le temps des apprentissages de se réaliser.
Et docteur Anne Reynaud, vous constatez à propos de ces élèves turbulents une méconnaissance de leurs besoins fondamentaux et de leur développement. Vous invitez les parents et les enseignants à changer de regard, à chausser de nouvelles lunettes pour découvrir ce qui se joue vraiment à l'école. Alors attention qu'on s'y méprenne, et vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, vous ne jugez pas l'institution scolaire, ni ne dénoncer ses manquements. Vous avez juste envie que, voilà, on s'intéresse vraiment aux besoins fondamentaux de ces élèves qui dérangent à l'école.
Ah ouais, j'aspire vraiment à ce qu'on puisse faire évoluer les choses, parce qu'on voit beaucoup de bonne volonté. Les enfants, ils aiment aller à l'école. Les parents, ils aimeraient construire la coéducation. Et les enseignants, ils sont passionnés par leur job. Et je suis effondrée du gâchis, au fond, du gâchis qu'on voit, c'est-à-dire le gâchis de l'enfant qui, finalement, a de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passe à l'école, des parents qui se mettent en opposition avec les enseignants, et des enseignants qui pensent que la difficulté de l'enfant, elle est liée à des éducations laxistes. Et donc, on va rentrer dans une chaîne d'insécurité où tout le monde est embarqué, de l'enfant à l'enseignant, et qui crée énormément de souffrance. Et j'ai envie d'inverser les choses. L'autre n'est pas une menace. L'autre est à découvrir. L'autre est à regarder différemment. Et quand on arrive à le regarder différemment, donc il faut changer de lunettes, eh bien, en fait, on découvre des trésors, en fait.
Et on reviendra tout à l'heure sur ces comportements inadaptés qui traduisent une insécurité émotionnelle. Et nous accueillons Myriam. Bienvenue, Myriam.
Bonjour.
Bonjour, vous appelez de la Drôme, c'est ça ?
Absolument.
Alors, quel est votre témoignage ?
Alors, moi, je suis AESH, c'est-à-dire je suis accompagnant pour un élève en situation de handicap au sein d'une primaire, dans un village montagnard où ils sont seulement 22, dans trois niveaux, CE2, CM1, CM2. Et ça concerne deux élèves de CE2. Et alors, je suis toute émotionnée parce que je vis exactement tout ce qui a été dit. Là, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, je vis ce que vous venez de dire, c'est-à-dire deux enfants qui sont, avec des aptitudes, je trouve, assez précoces, même si je ne suis pas enseignante. Voilà, moi, et ce n'est pas l'élève avec qui que je dois accompagner, qui pose souci, qui est très douce et tout ça, c'en est deux autres, en fait. Donc, un a été, hélas, confié dernièrement pendant les vacances scolaires, parce que c'était de l'agitation, de la turbulence. Et le deuxième est toujours ici. Et en fait, je demande de l'aide parce que on ne sait plus quoi faire. Nous, avec l'institutrice, on ne sait plus quoi faire. On a tout essayé, on passe un temps fou. Il dérange tout le monde. C'est plus qu'au quotidien, c'est toutes les heures, tous les quarts d'heure, tous les. Donc on se retrouve à subir en fait cette situation en mettant en place de notre côté plusieurs choses. Mais hélas, moi qui ai un tempérament un petit peu. Voilà, j'ai du souci avec l'injustice. Dès qu'il se montre injuste, j'ai pas toutes les clés, j'ai un peu tout essayé. Et dès qu'il agresse, en fait, il y a quelque chose en moi qui déborde. Et je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vois leur lumière, je vois ce dont ils. Et ça me touche beaucoup, donc ce qui fait que je suis complètement démunie.
Il faut préciser qu'en tant que KESH, vous assistez à la classe en compagnie de l'élève que vous accompagnez. Vous êtes présent aux côtés de l'institutrice.
Voilà.
À quoi ressemblent ces comportements inadaptés de cet élève ?
C'est tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il ne lève pas le doigt, il s'autorise la parole à tout bout de champ. Il méprise les autres, il les agresse, il les insulte. Il nous, dès qu'on lui demande qu'on lui explique, qu'on reste le plus calme possible, c'est très agressif. Et en même temps, il a besoin d'étaler son savoir tout le temps, parce que forcément, il en a beaucoup. Donc, ils sont très intéressants. C'est ça qui... Mais voilà, on, voilà son comportement. Mais je vous dis, c'est plusieurs fois par heure. Ouais.
Et on entend, docteur André Nau, Bruno Beck, la lassitude et la colère du corps enseignant et de Myriam qui accompagne donc cet élève en situation de handicap.
Oui, enfin vraiment, c'est l'expression d'un sentiment d'impuissance.
Impuissance.
Et d'être totalement démuni par rapport à des situations, alors qu'il y a un réel engagement émotionnel à prendre, à accompagner vraiment ces élèves. Alors les AESH, comme on les appelle, n'ont pas de formation, et pour autant, elles doivent accompagner ces enfants qui ont des besoins encore plus spécifiques que les besoins, enfin que les enfants de la classe. Donc il y a vraiment une question autour de ça. Et puis la deuxième chose, c'est et c'est tout l'objet de nos échanges et de ce livre, c'est soit on va regarder le haut de l'iceberg, c'est vraiment une image intéressante, mais on va regarder l'agitation, l'opposition, la provocation. L'enfant, il n'a pas l'intention d'être dans ces attitudes-là. Il y a quelque chose d'autre qui va être à l'œuvre dans cette provocation, et c'est la partie émergée de l'iceberg. Et c'est ça qu'il faut aller pouvoir voir, parce que tant qu'on s'applique à regarder et à mettre des mesures en face du haut de l'iceberg, en fait, ça ne marche pas, et tout le monde s'éprouve, et
on
surtout
le
l'enfant.
Myriam. Hein.
Exactement. Et l'enfant n'a pas de besoins satisfaits, l'adulte ne sait pas comment satisfaire ses besoins, et on va s'installer dans cette chaîne d'insécurité qui va être délétère et destructrice pour tout le monde.
Bruno Beck. Mais on entend hein, dans le témoignage de Myriam, tout le problème c'est celui de prendre sa place dans un territoire. La classe est un territoire dont la maîtrise doit être assurée par les adultes. C'est eux qui doivent fixer les règles. L'enfant doit trouver sa place. Ce qui est tout à fait étonnant dans ce témoignage, et en même temps, qui en réalité n'est pas étonnant, parce qu'on a des façons positives. Il étale son savoir, ça veut dire effectivement qu'il prend la place, mais aussi avec ce qu'il estime être ce qui est attendu de lui à l'école, c'est-à-dire bah, connaître, apprendre à maîtriser des connaissances, et puis finalement à démontrer qu'il les connaît. Ça, c'est sa façon positive d'essayer d'investir le territoire, et il y a aussi un tas de façons négatives de le faire, pour lesquelles il faut qu'il y ait un cadre très très précis, et le rôle des adultes, c'est parfois, ça semble étonnant, mais de rappeler qu'ici, on est à l'école. C'est ce petit mot magique, ici. Si je vous dis, si j'aurais su, j'aurais repassé par la pharmacerie. Allez, moi, il parle comme un belge, celui-là. Donc, il multiplie les fautes.
Je ne permettrai pas.
Mais si on me dit, tu parles comme un charretier, mon père parlait comme ça, eh bien, moi, je vais m'autoriser, effectivement, soit à ne plus aller à l'école et rester près de mon père, soit l'inverse. Par contre, si on utilise ce petit mot magique, ici, les si n'aiment pas les ré. Ici, pharmacerie, épicerie, c'est pas du tout la même chose. Et donc, simplement ne pas disqualifier les règles qui sont dans, sans doute, auxquelles cet enfant est confronté dans sa famille, et les règles de l'école. Ici, les règles changent, on va te les rappeler, et tu vas trouver ta place plus facilement, parce que tu connaîtras les règles plus facilement.
Et un point qui est majeur aussi, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les enfants vont avoir beaucoup accès à des connaissances, et des connaissances cognitives, intellectuelles. Donc, effectivement, ils vont très vite là-dedans. Et on pense que cette maturité, ou en tout cas cette curiosité, elle est en adéquation avec une maturité émotionnelle. Mais peut-être qu'il faudrait changer de mot. On parlait tout à l'heure avec Bruno des mots, l'importance des mots. Moi, j'utilise plus le terme de maturité, j'utilise le terme de maturation. L'enfant, c'est comme un fruit qui est en train de mûrir. Et donc, je vais souvent dans des équipes éducatives en me dire « Ah non, mais les apprentissages, ça va très bien, mais il est immature sur un plan émotionnel. » Revenons quand même à des fondamentaux du développement de l'enfant. L'enfant n'est pas en capacité d'être câblé pour rentrer dans des régulations émotionnelles avant très longtemps. Très,
à l'âge
très
de 25
longtemps.
Ans, c'est ça.
À l'âge de 25 ans. Voilà. Et donc, attendre que...
La maturation du cerveau, c'est 25 ans.
C'est 25 ans. Donc, attendre que il soit sage, qu'il accepte. Et parce que comme il a identifié les émotions, il va les réguler. Pas du tout, en fait.
Merci beaucoup, Myriam, de nous avoir appelé. Dans quelques instants, nous verrons qui sont ces enfants qui dérangent à l'école, ces enfants turbulents. On se retrouve juste après avoir écouté Blondie, qui interprète Atomic, une chanson de 1979, 10h24 sur France Inter. Qu'est-ce que ça fait du bien, Blondie, interprété Atomique.
Arthur, la casquette.
France Inter.
C'est ma place.
Non, hé hey. Oh, on se calme maintenant.
Rends bien vous face.
Toi, là, qui t'agites tellement que ça, là. Déjà, tu vas commencer par baisser ta capuche, s'il te plaît. Bien, j'aimerais que ce soit clair dès le début de l'année. Hé
hey. Ali Rebi.
Et ce matin, comment accompagner les élèves turbulents, ces élèves qui dérangent la classe, avec la psychiatre Anne Reynaud, qui publie justement cet enfant qui dérange à l'école, et avec le psychopédagogue et chercheur Bruno Humbeck. Et nous accueillons Laurence. Bonjour Laurence, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous Laurence ?
Je suis dans le Béarn en fait,
très
à
bien.
Côté de Pau.
Très très bien, belle région. Quel est votre témoignage Laurence ?
Alors en fait, je suis maman c'est un jeune homme maintenant qui est porteur de troubles neurodéveloppementaux. Mm-hmm. D'abord diagnostiqué TDAH, puis finalement TSA, donc avec un trouble autistique. Mm-hmm. Et il a un parcours scolaire très chaotique, très compliqué. Et en fait, il a fallu changer plusieurs fois d'école. Et en fait, il n'était pas correctement pris en charge dans ses besoins spécifiques. Et du coup, il manifestait en fait cette non prise en charge, cette souffrance, mm-hmm. Par des troubles du comportement parfois relativement sévères en fait. Mm-hmm. Et à chaque fois, il a fallu le changer d'école pour le mettre dans un établissement qui soit plus bienveillant par rapport à ses difficultés.
Est-ce qu'à l'époque, Laurence, le diagnostic de TDAH ou de troubles du spectre autistique était établi ?
Alors, pas forcément, pas au début. Mmh. Cependant, moi, ce dont je voulais témoigner, c'était de cette difficulté de ces enfants qui ont des troubles du comportement. Alors, ça ne concerne pas tous les enfants qui ont des troubles du comportement, bien entendu, mais je me suis formée par la suite pour pouvoir accompagner ces enfants et je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui ont ce comportement en retrait ou en excès parce qu'ils ne sont pas bien compris et bien pris en charge par l'école en général d'ailleurs, pas forcément que par les enseignants.
Docteur Anne Reynaud.
Merci Laurence de ce témoignage parce qu'il est tellement dans la réalité du quotidien et ça vient faire résonance avec justement la théorie de l'attachement ou en tout cas les connaissances sur le développement de l'enfant qui vont nous expliquer que chaque individu, enfant comme adulte, va avoir des besoins fondamentaux. Alors, on connaît la pyramide de Maslow, mais
on a des besoins,
ouais, exactement. Mais il y a aujourd'hui ce qu'on va appeler un méta-besoin, c'est-à-dire un besoin qui l'emporte sur les autres et qui va être fondateur du développement, de l'épanouissement, de l'exploration, des apprentissages, c'est le besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, il va faire résonance avec la peur. Si j'ai peur, j'ai plusieurs stratégies pour réguler la peur. Et une des stratégies, c'est l'agitation, c'est l'opposition, c'est la provocation. Et donc, tout enfant va avoir besoin de cette sécurité. S'il ne l'a pas, il va l'exprimer. Et les enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux, ils ont encore plus besoin de sécurité que les autres enfants. Donc on a besoin d'être formés. Et ensuite, il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, on nous envoie énormément d'enfants dans les instituts de la parentalité pour agitation, pour opposition sur des enfants de 3-4 ans. Le diagnostic de TDAH, c'est 6 ans. Avant, peut-être qu'il y a déjà des traits, c'est OK, mais d'abord, on va questionner la sécurité. Et l'insécurité, c'était aussi le témoignage précédent, l'insécurité va s'exprimer par de l'opposition, de la provocation. J'utilise l'image du porte-avions et du petit avion pour illustrer la théorie de l'attachement. C'est un peu comme si le petit avion, en fait, pour explorer, rentrer dans les apprentissages, il a besoin de faire le plein de sécurité sur le pont du porte-avions. Et s'il n'a pas assez fait le plein, il vient venir se poser sur le pont. Malheureusement, il n'est pas équipé d'un décodeur. Et au lieu de venir dire « Bonjour, porte-avions, j'aurais besoin de faire le plein », en fait, il vient de plus en plus solliciter le porte-avions. Et il vient solliciter avec ce que nous, on appelle des comportements répulsifs. C'est-à-dire, j'ai besoin de proximité, mais je vais te pourrir ta classe, je vais te pourrir ta nuit, je vais te pourrir ta matinée, je vais pas manger ce que tu m'as préparé, et puis les habits que tu m'as préparés, j'en veux pas. Mais en fait, cet enfant-là, il a d'abord peur, il a besoin de se poser, et globalement, comme on n'est pas formé à tout ça ou informé, on va lui offrir l'inverse. Ah non, mais là, t'es pénible. Donc, tu vas aller dans la classe d'à côté ou tu vas aller réfléchir. Peut-être que, de toute façon, l'enfant ne peut pas réfléchir. Hein. Il va d'abord devoir se réorganiser et s'apaiser. Mais globalement, c'est un peu ça. Et on n'est pas équipé à comprendre ça. Donc, on va penser que l'agitation est forcément un TDAH. Les TDAH existent, mais tout enfant agité n'est pas non plus un TDAH.
Et Brunnenbeck. Alors, je pense que c'est important parce que ce que Laurence, finalement, évoque comme problème, c'est celui de toute la pédagogie. C'est un acte simultané qui est donné à un grand nombre d'élèves. Hein. C'est le but, de, finalement, d'une classe. C'est de faire un acte pédagogique simultané, mais il doit être différencié. C'est-à-dire que chacun va le recevoir de façon particulière. C'est pour ça que le mot, par exemple, neurodivergence, est un mot à manier avec beaucoup de précautions. En réalité, on est tous neurodifférents, parce qu'on va faire des connexions neuronales qui vont effectivement faire que chaque cerveau devient un cerveau singulier. Il faut pouvoir, et c'est compliqué pour un enseignant, parce que c'est vrai que cette image de porte-avions est très bien choisie, mais est-ce que c'est à l'école, à prendre en charge ce rôle affectif, alors même que des enfants insécurisés le sont parfois pour des raisons différentes, qui sont beaucoup plus liées à la dynamique familiale, où ce besoin doit être nourri. Un enfant qui a peur d'échouer parce qu'il a peur de décevoir ses parents, par exemple, est un enfant qui est en difficulté affective, qui va pouvoir alors avoir ses comportements un peu paradoxaux, c'est-à-dire alors qu'il a des tas de compétences, il va tout laisser tomber par peur de décevoir, et donc on va se retrouver face à un refus scolaire anxieux. Et la crainte de décevoir affectivement des parents qui sont beaucoup trop investis dans les résultats scolaires, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. De la même façon que les troubles de l'attention, il faut être très très attentif, nous sommes dans une société qui privilégie en permanence l'attention focale. On va constamment être sollicité. Moi, j'aurais tendance à dire que les troubles de l'inattention sont plus dangereux que les troubles de l'attention. Un enfant qui n'est plus capable de vagabondage mental, etc. Et donc, il faut être très attentif, effectivement, à ces étiquettes. Hein. Là, je vous rejoins tout à fait. Ces étiquettes qui empêchent les enfants de grandir parce qu'on dit, toi, tu es un TDA. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Et donc, l'évolution devient beaucoup plus compliquée et difficilement envisageable par l'enfant lui-même.
Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir appelé. Une autre Laurence nous écrit « Je suis enseignante depuis 32 ans et je remarque que les comportements des enfants ont évolué. Ils sont de plus en plus exposés aux écrans, moins attentifs et se comportent de plus en plus violemment. Nous constatons des agressions physiques et verbales de plus en plus importantes. » Alors, vous établissez, docteur Anne Reynaud, dans votre livre, une typologie de tous ces enfants qui dérangent la classe. On l'a vu, il y a enfants trop agités, ces enfants qui bougent sans cesse, qui ne restent pas en place, qui sollicitent de façon incessante l'attention de l'adulte. À partir de quel moment l'agitation devient-elle problématique?
Je ne sais pas si j'ai la réponse, puisqu'au fond, elle va dépendre du contexte. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas un critère qui peut nous dire à quel moment. Il faut vraiment à chaque fois contextualiser les situations. Pour revenir sur ce que disait Bruno tout à l'heure, sur cet engagement affectif, moi, j'aime bien différencier ce qui est de l'affection, parce que globalement, aujourd'hui, l'attachement en France entraîne beaucoup de confusion autour de l'amour, ou en tout cas de l'engagement affectif. Moi, je parle de sécurité émotionnelle. Et effectivement, l'engagement émotionnel de l'enseignant, il est majeur et il va justifier qu'il soit il est identifié comme un porte-avions. Après, effectivement, c'est pas le porte-avions qui est dans le quotidien de l'enfant, dans sa vie à la maison, mais il est quand même dans son quotidien et il a quand même une responsabilité. Et en fait, moi, j'ai plutôt l'attitude de me dire, oui, il y a les écrans, mais il faut pas les diaboliser, ils font partie de nos vies. Oui, il se passe des choses à la maison, mais il se passe aussi des choses à l'école. Comment on se co-responsabilise, en fait?
On va revenir sur cette question de l'attachement dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on continue un peu cette typologie des enfants qui dérange à l'école. Donc il y a ces enfants trop agités, il y a aussi l'enfant opposant et provocateur avec une agressivité qui se manifeste par des actions verbales, des morsures, des bagarres, des enfants qui envahissent l'espace scolaire de façon très bruyante. Ce sont des enfants débordés par leurs émotions, incapables de gérer leur frustration.
Alors ça va aussi
dépendre de l'âge. De façon très schématique.
Voilà. Parce que globalement, c'est pas parce que l'enfant, aujourd'hui, on fait beaucoup d'éducation émotionnelle où on va apprendre à l'enfant à identifier ses émotions. Et du coup, de fait, l'adulte va attendre que, comme il les a identifiées, il les régule. Il est incapable de les réguler. Donc non, ce qui vient, en tout cas, vient nous dire les connaissances aujourd'hui sur l'enfant, c'est que la peur, qui est au cœur de mon ouvrage, la peur, si vous avez peur, vous avez plusieurs stratégies. Et une des stratégies, j'ai peur, mais je vais attaquer, en fait. Je vais attaquer. Et l'attaque, elle va se manifester par de l'opposition, de la provocation. On peut avoir du harcèlement. effectivement, on peut avoir, enfin, tout ce qui aujourd'hui est au-dessus de l'iceberg, qu'on va étiqueter comme violence, mais qui fait lien avec la peur.
Mais la présence de ces enfants opposants et provocateurs en classe constitue un fardeau qui empoisonne donc la classe, avec des enseignants, des parents qui sont difficilement empathiques face à de tels comportements.
Totalement. Parce qu'au fond, finalement, on va rentrer dans cette chaîne de la peur. Dans mon ouvrage, j'ai personnifié un petit peu toutes ces situations. Donc, il y a Élodie, l'enseignante, il y a Vanessa, la maman. Mais on voit comment, finalement, cet enfant qui arrive à l'école et qui est perturbant, Élodie, elle se dit « Ah non !» pas aujourd'hui, enfin je peux pas, je me sens pas. Et finalement, il vient menacer l'enseignante, qui elle aussi peut être menacée par des programmes scolaires très exigeants. Aujourd'hui, la maternelle, c'est une prépa, c'est une prépa CP. C'est plus j'apprends et je découvre le monde et les valeurs partagées, etc. On est dans une chaîne d'insécurité qui va entraîner tout le monde. Et cet enfant, on voit plus que le dérangement et on n'arrive plus à voir ce qu'il y a derrière.
Le vrai problème de ce type d'enfant, c'est le rejet global dont ils font l'objet. Lorsqu'on dit « tu m'énerves, tu m'agaces », c'est tout à fait différent que ce que tu viens de faire là, m'énerve. Je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Je te punis parce que tu n'es pas sage, ça ne veut rien dire en pédagogie. Je te punis parce que tu viens de transgresser une règle, ça c'est plus audible pour un enfant. Et c'est ce rejet global qui peut être très, très difficilement vécu par ces enfants.
Parmi les enfants qui dérangent la classe, il y a celui que vous appelez dans votre livre le mini-ado. Ce sont souvent les parents qui les présentent comme des mini-ados. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'entends parfois des parents parler de leur bout de chou de, je sais pas, de 5, 6, 7, 8, 9 ans, comme des mini-ados.
Même plus tôt. Moi, j'ai les 4 ans. 3-4 ans, déjà, c'est... Ouais, ben, il veut décider de tout. Ouais. Docteur Anne, est-ce que vous avez des pensions pour ces mini-ados? Effectivement, les enfants d'aujourd'hui, alors on parle de précocité, d'HPI ou autre, ils ont un cerveau qui fonctionne très vite. Ils sont aussi soumis à des stimulations importantes. Et c'est plutôt positif et favorable pour leur développement. C'est pour ça qu'il ne faut pas diaboliser ce qu'ils apprennent dans les écrans. Je ne veux pas dire qu'il faut les exposer et les surexposer aux écrans, mais de toute façon, on ne peut pas ne pas être exposé un minimum aux écrans. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait des écrans? C'est surtout ça qui va nous interroger. Mais globalement, c'est vrai que c'est toujours difficile de pouvoir les identifier et en faire quelque chose. Et quand je vais en consultation, alors j'ai un long couloir avant d'arriver à mon bureau, c'est « Ouais, j'ai un mini-ado, de toute façon, il décide de tout, il décide de ce qu'on va manger. » Après, il y a eu ce mouvement aussi, on parle souvent de mouvement de balancier. Moi, j'essaye d'un peu de trouver la voie du milieu, mais Dolto l'avait dit avant, un enfant est une personne. Aujourd'hui, on voit que les enfants, ils ont une identité et les parents, ils veulent qu'ils aient une identité, une liberté de penser. Et en même temps, il faut quand même qu'ils obéissent aux règles, mais quand même, il ne faut pas leur mettre de cadre. Enfin, c'est ingérable.
Ce sont des injonctions paradoxales.
Mais c'est des injonctions qui sont impossibles à tenir. Un enfant reste un enfant et n'est pas un adulte.
Alors, les mini-ados, c'est le mécanisme de l'adolescence, c'est-à-dire cette façon de se précipiter dans l'adolescence. Et c'est vrai que Dolto a dit que l'enfant était une personne, mais Dolto n'a jamais dit que l'enfant était une grande personne. Et la vraie difficulté, c'est qu'on ne reconnaît plus aux enfants le droit d'être des enfants et de prendre leur temps pour grandir. Ça veut dire qu'on doit fixer ce cadre et qu'effectivement, quand un parent dit « mais mon enfant est déjà un adolescent, c'est lui qui veut décider de ce qu'on va manger ce soir », c'est pas le problème d'être un adolescent, c'est le problème que la décision de ce qui va être cuisiné le soir, ça doit encore dépendre des parents pendant très longtemps, pendant le développement de l'enfant.
Alors, docteur Anne Reynaud, comme vous le disiez tout à l'heure, tous ces comportements perturbateurs, difficiles, sont la partie émergée de l'iceberg. Si on prend un sous-marin pour explorer la partie immergée de cet iceberg, eh bien, on va trouver au cœur de ces comportements problématiques la peur. Et trois grandes stratégies pour répondre à la peur, on les connaît, c'est attaquer, fuir ou se figer.
Et oui, c'est vraiment des connaissances qu'on a depuis longtemps, mais qu'on n'arrive pas à transposer réellement sur ces comportements. Donc, on va être un peu démunis pour les décoder. Mais oui, la peur qui va s'éprouver. Et la peur, c'est pas facile. Moi, je peux ne pas avoir peur des araignées, et mon voisin a très peur des araignées. Ça se rationalise pas, la peur. Et la peur, en tout cas, dans les connaissances sur le développement de l'enfant, vient nous dire que elle va se manifester, ou même nous adultes, quand on n'a pas un sentiment de cohérence, de prévisibilité. visibilité et d'engagement relationnel ou de chaleur dans notre environnement. Reprenons l'exemple de la crise sanitaire. Heureusement, ça commence à dater. Mais nous, adultes, bah, on nous a annoncé un confinement et on a finalement activé ce fameux système d'attachement. Le 16 mars 2020, 20h, on avait tous peur et on a mis en place un certain nombre de stratégies. Et on a eu besoin de cohérence, qu'on n'a pas trouvé, et j'en veux à personne, prévisibilité, encore moins, chaleur, impossible, interdit. Ben, en fait, l'enfant qui arrive à l'école, qui n'a pas forcément de cohérence entre les professionnels du périscolaire, de l'école, de la cantine, de l'école, du périscolaire, n'a plus, au fond, d'accès à une chaleur, parce qu'aujourd'hui, il y a interdiction de toucher les enfants, avec les scandales. Aujourd'hui, dans le périscolaire, on dit aux professionnels, ne les touchez plus. Mais une petite fille de 3 ans qui tend les bras le matin parce qu'elle a peur, eh ben, on va lui apprendre, ben, tu vas pouvoir compter sur personne. Ils se sentent menacés, et cette peur va se manifester, soit par de l'attaque, ce dont on a beaucoup parlé jusqu'alors, soit par la fuite aussi. C'était Laurence qui nous parlait de diagnostic d'autisme. Aujourd'hui, il y a des enfants porteurs d'autisme, mais un enfant en retrait relationnel peut avoir autre chose et en particulier un sentiment d'insécurité. Et puis, il peut aussi se figer. Et là, on va aussi voir des difficultés. Et je voudrais finir là-dessus parce que c'est important. Ce qu'il faut comprendre aussi dans les connaissances de l'attachement, c'est que quand on a peur, on va donc activer un espèce de système d'alerte à l'intérieur de nous. Et il y a un autre système qui va s'éteindre en même temps, qu'on va appeler le système d'exploration. C'est-à-dire, tiens, je vais découvrir mon environnement, je vais découvrir les autres, je vais découvrir les apprentissages que l'enseignant a préparés. Eh bien, ces deux systèmes, ils sont combinés biologiquement, mais en opposé. C'est-à-dire que si j'ai peur, ben, je vais éteindre mon système d'attachement, d'exploration. Pardon. Si je rentre chez moi et que j'oublie d'éteindre l'alarme et que ça hurle, je ne vais pas ouvrir le frigo pour voir si j'ai à manger. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. Si je me sens menacée par des attendus très importants, par de l'incohérence entre les différents adultes, par l'incohérence entre mes deux porte-avions que sont mes parents et les enseignants, et à une difficulté de construire cette coéducation, je vais avoir peur et je ne vais pas rentrer dans les apprentissages. Et on va rentrer dans une chaîne duquel l'enfant ne pourra jamais sortir tout seul sans que les adultes n'aient conscience de ce qui se passe.
Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'une des sources de stress de l'enfant, c'est les tensions entre l'école et la famille. Et donc, il faut savoir que dès qu'il y a une tension entre l'école et la famille, celui qui trinque, c'est l'élève. Parce qu'il se trouve avec des adultes qui n'ont pas effectivement cette forme de cohérence et qui ne lui donnent pas cette sécurité affective. Parce qu'on est très fort dans les métaphores marines, hein, sous-marin, porte-avions. Moi, j'en ai une qui me paraît très, très porteuse aussi, c'est l'idée du nœud marin. C'est-à-dire quelque chose qui se détache facilement, mais lorsqu'il est attaché, on est attaché solidement. Et c'est ça, le principe de l'attachement-détachement, c'est ce que l'enfant va apprendre en priorité à l'école, à se détacher d'un milieu pour retrouver sa place dans un autre milieu. Et il faut qu'il ait l'impression, effectivement, que quand il revient de l'école, son environnement affectif est un environnement qui est prêt à l'accueillir de façon positive, quel que soit ce qu'il a vécu à l'école, y compris des échecs scolaires qui font partie de son apprentissage.
Et nous accueillons Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Bienvenue. D'où appelez-vous Sophie?
Merci. J'appelle de Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône.
Et vous êtes enseignante?
Voilà. Je suis enseignante et comme c'est mercredi, je peux écouter votre émission.
Tant mieux,
et
tant mieux.
Le sujet m'intéressait. Voilà, j'étais par contre un petit peu dérangée par la sensation de recevoir des solutions un peu clés en main. Voilà, et qui me font un peu sentir incompétente, et ça me semble un petit peu éloigné du terrain de la classe.
Alors juste pour préciser, voilà. Docteur Anne Reynaud a plusieurs fois dit que tout dépendait du contexte, de l'environnement.
Mais bon, si vous voulez, le fait est que souvent les enseignants se sentent quand même seuls devant ces cas difficiles.
Bien sûr.
Avec des psychologues scolaires qui sont submergés, et comme vous le citiez déjà, un manque de formation et la difficulté à combler finalement toutes les carences qu'on rencontre chez ces enfants et quelquefois vraiment nous font sentir complètement impuissants et peu soutenus.
Voilà, À quoi êtes-vous confrontée, Sophie? Donnez-nous un exemple concret.
J'ai des enfants assez compliqués dans ma classe, dont un en particulier, et effectivement, il y a tellement de difficultés au niveau familial, etc., que moi, je me sens impuissante à arriver à amener cet enfant à travailler, à se sentir bien en classe, parce que de l'autre côté, du côté familial, je mets pas tout sur la famille, mais c'est tellement difficile que moi, je me sens pas armée pour remonter cet enfant, sachant que j'ai quand même une classe de CP de 23 élèves avec d'autres élèves qui ne sont pas simples ou en difficulté. Voilà. Donc moi je veux pas de solution clé en main. Je veux quelque chose de vraiment très concret et surtout qu'effectivement on soit plus soutenu au niveau les psychologues scolaires, etc. Parce que même quand on signale ses enfants, il faut attendre au moins 6 mois à 1 an avant qu'ils soient vus par le par la psychologue, quoi.
Docteur Anne Reynaud, sur le découragement de Sophie, qu'on peut le comprendre. Hein.
On peut le comprendre, et puis moi je vois très bien et je le conçois, et c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai aussi écrit cet ouvrage. C'est-à-dire que je sais très bien que le 1 pour 1 dans mon cabinet n'a rien à voir avec le groupe classe, avec 22, 30 petits avions qui ont toutes leurs spécificités. Donc beaucoup d'humilité et beaucoup d'admiration sur ce métier qui est vraiment des métiers passion avec un réel engagement. Et justement, en fait, dans cet ouvrage, il n'y a pas de recette. Parce qu'il n'y en a pas. L'humain, il est singulier. Pour autant, il a un besoin qui est ontologique et qui est universel. Et c'est celui-là que j'ai envie de partager. Mais donc,
Sécurité.
La sécurité
émotionnelle.
La sécurité émotionnelle et des lunettes qui vont faire qu'on va le regarder différemment, qu'on va regarder différemment ce parent, qu'on va pouvoir rentrer en relation avec ce parent, qu'on va soi-même se regarder très différemment en tant qu'enseignant aussi. Parce que j'ai aussi, moi, mon insécurité, ma propre insécurité, avec qui je la partage. Donc, non, pour ceux qui ont, les enseignants qui ont commencé à lire cet ouvrage, le retour me rassure aussi parce que c'est vraiment pas ma posture. Et quand je travaille avec des écoles, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment je peux vous aider, et tout n'est pas psychologique non plus. Et je pense qu'on peut aussi outiller et équiper, pas forcément outiller au sens de recette toute faite, mais équiper, c'est comme le soutien à la parentalité, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de livre de recettes, ça n'existe pas. Mais en tout cas, on peut regarder l'autre, et rien que regarder l'autre, il va déjà se passer des choses dans la relation.
Et bien comprendre, parce que je crois que le témoignage est explicite à ce niveau-là, qu'on doit avoir affaire de plus en plus à des communautés éducatives. L'école ne doit pas agir seule. L'école a trop tendance à fonctionner comme une île, et je dirais même comme un archipel, avec chaque classe dans lequel, débrouille-toi avec ta classe. On est dans des communautés scolaires qui doivent s'intégrer dans des communautés éducatives. C'est vrai que demander aux enseignants de donner cours simultanément à une classe et d'être attentif au développement de chacun, c'est absolument aberrant. Il faut pouvoir le faire avec toute une communauté éducative, mais qui respecte le rôle de chacun. C'est-à-dire dans lequel on n'a pas des conflits d'identité, parce que les parents viendraient dire, par exemple, aux enseignants comment ils devraient enseigner. Éviter aussi ce qu'on appelle la police des familles, l'école qui dit, voilà comment vous devez éduquer votre enfant. Il faut qu'on ait des climats apaisés où s'intéressent tous ensemble au développement de chaque enfant, le développement singulier, mais de manière positive. Et ça, je pense que l'ensemble des acteurs du système éducatif sont prêts à le faire, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les enfants se développent de manière positive. Et donc l'idée de bienveillance, mais c'est l'organisation de ce système qui est parfois un peu défaillante.
Merci beaucoup Sophie de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Dans quelques instants, allez, quelques pistes hein, pour accompagner ces enfants qui dérangent à l'école. On écoute This is Kid Cudi qui interprète Try, 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 10h48 sur Inter.
Je me souviens de la vie qui me calcule pas. Quand je marche sur le trottoir, très tard, le soir, je crois ce gars, je lui dis, je te raconte pas. Ce qui s'est passé, c'est vraiment dark. Toute une histoire, accroche-toi si t'es pas taille. Si t'es largué, mets-toi dans le time. De toute façon, cette vie, c'est tcha, 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 tcha. Catch me in a zone as I sit stare at the moon. I need peace of mind. There's so much darkness inside my life. Feel so low. The nights alone at home. I prayed up high. Catch me in a zone. Get up my own shit. Said I ain't going back to the cold. And I see it ain't the same, my mind. Cœur, j'ai cœur qui parle en morse, pas en morse. T'as trop de problèmes, en vrai tu te noies dans un verre d'eau. Cœur, j'ai cœur qui parle en morse, pas en morse. T'as trop de problèmes, en vrai tu te noies dans un verre d'eau. Cœur en lambeau dans la. Try, 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 try.
This is et Kid Cudi interprété Try, Try, Try.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, qu'on m'a accompagné les élèves turbulents, ces élèves qui dérangent la classe, avec la psychiatre Anne Reynaud et avec le psychopédagogue et chercheur belge Bruno Humbeck. Alors, on a bien compris hein, tous ces éléments qui peuvent expliquer qu'un enfant perturbe la classe, mais je vais me faire l'avocat du diable, au risque de paraître terriblement simpliste. En dépit de toutes ces explications, il y a des enfants chiants et qui le resteront toute leur vie, même en ayant des figures d'attachement sécures, en ayant bénéficié de tout l'amour et de toute l'attention du monde, docteur Anne Reynaud, et qui deviendront peut-être ou pas des adultes chiants.
Alors nous, on les appelle les attachants. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose où il y a des moments où on a envie de passer du temps avec eux parce qu'ils sont plutôt vifs et intéressants. Et puis il y a des moments où on se dit, non mais j'ai plus du tout envie. Donc on les appelle les attachants. Et effectivement, ça fait beaucoup résonance. Et on a le droit. Enfin oui. Voilà, il y a aussi toute la notion de l'interaction, la relation, la découverte de l'autre. Et tout n'est pas attachement. Il y a aussi beaucoup d'espace de vibration où on va se rencontrer ou pas se rencontrer. Donc c'est ok de pouvoir se le dire et en avoir conscience. Mais il faut juste quand même comprendre notre posture d'adulte par rapport aux besoins fondamentaux de l'enfant.
Bruno Humbeck. Alors, je pense effectivement que la proportion de personnes chiantes est un invariant transgénérationnel. Hein. Donc effectivement, il n'y a pas une génération d'enfants chiants qu'on associerait par exemple à des techniques pédagogiques comme la pédagogie positive, tout ça est d'un simplisme épouvantable. Il y a des enfants chiants, il y en a toujours eu, c'est pas une nouveauté, et c'est pour ça que c'est important de fixer les limites mais aussi de fixer ses limites. Ce qui manque beaucoup aux enseignants, tous les professionnels finalement de l'humain ont en bénéficient, c'est qu'ils ont des supervisions où ils peuvent parler d'eux-mêmes. Il n'y a rien qui existe pour les enseignants, ils ne parlent que de leurs élèves et jamais d'eux-mêmes, or ils vivent aussi toutes ces difficultés à supporter des enfants chiants, parce que ça fait partie de leur quotidien.
Docteur Anne Reynaud, quelle est la piste fondamentale pour accompagner ces enfants qui dérangent la classe ? Qu'est-ce qui est le plus important à faire ?
Alors, je pense qu'il faut déjà chausser les lunettes de sécurité et de pas penser que l'autre est une menace, que ce soit l'enfant, le parent ou l'environnement, et de se dire qu'est-ce que je vais aller chercher de cette sécurité. Puis ensuite, on peut la mettre en œuvre dans le quotidien.
Et ça veut dire quoi, chausser ces lunettes de l'attachement ?
Déjà, regarder que derrière le comportement très agité, y a un enfant qui a peur. Et déjà, comment je peux lui dire bonjour le matin si je pense qu'il a peur ? De quoi, moi, j'ai besoin en tant qu'adulte quand j'ai peur ? Si on n'a pas cette première étape, tout le reste va être des outils un peu tout faits qu'on va transposer, et puis au bout de quelques temps, on va dire « Ah bah ça marche pas vos outils ». Mais normal, ça marche pas. Donc mon premier prérequis et condition, je regarde l'autre comme quelqu'un qui a peur et je me dis de quoi il aurait besoin s'il a peur. Et ben quand j'ai peur, j'ai besoin de proximité, j'ai besoin qu'on puisse peut-être m'installer en classe à côté de moi et pas qu'on m'exclue de la classe. J'ai besoin peut-être qu'on me parle différemment. J'ai besoin aussi qu'on ritualise les choses, qu'il y ait les cadres les règles qui soient redites. J'ai besoin parfois, quand j'ai très peur, j'ai besoin de repères visuels. On pourrait imaginer des petits calendriers ou l'organisation de la journée sur lequel l'enfant puisse se référer. On pourrait aussi imaginer, aujourd'hui je vois beaucoup d'enfants, ils me disent, tu sais, je sais pas qui va me faire école aujourd'hui, je sais pas qui vient me chercher. Enfin voilà, on pourrait imaginer, ritualiser les choses.
Bruno Humbeck.
Alors, ne pas hésiter aussi à demander du soutien, parce que c'est compliqué d'être face à des enfants, mais qu'on appelle des enfants difficiles, turbulents, peu importe le mot qu'on met dessus, on peut mettre un diagnostic médical, hein, ça vient de l'extérieur, et puis c'est projeté à l'école, qui se retrouve confronté avec un enfant qui a sur sa tête une étiquette médicale qui lui permet de tout s'autoriser, par exemple dans certains cas. Je crois que c'est important qu'un enseignant fixe ses limites en disant, là, c'est peut-être plus mon boulot d'enseignant parce que je ne suis plus en situation de pouvoir livrer cet enseignant à cet enfant qui n'est pas en position de le recevoir.
C'est le porte-avions du porte-avions.
Voilà.
Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est qu'effectivement, on doit pouvoir compter sur d'autres dans ces moments-là et pouvoir, je donne un exemple dans l'ouvrage, cet enfant est turbulent, j'aimerais qu'il soit un peu dans une autre classe, mais on ne le présente pas comme une punition, mais comme, tiens, je te propose que tu ailles dans... Et j'ai collaboré avec mon collègue ou ma collègue pour dire, là c'est difficile et je préférerais que ça se passe comme ça.
Et nous accueillons Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Ali. Bonjour France Inter.
Bonjour, d'où appelez-vous madame ? Madame Elisabeth.
J'appelle de Gourdon. Je voulais déposer un témoignage parce que j'ai 57 ans et je suis nounou aujourd'hui, après avoir fait autre chose de ma vie. Ouais. Et je m'occupe des petits jusqu'à 3 ans. Ouais. Et en fait, je voudrais parler du sens qu'on donne aux choses, parce que qu'on donne aux règles, notamment, parce que dire à un enfant, la règle c'est ça et c'est comme ça, souvent à l'école, les instits, ils peuvent pas expliquer parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils sont submergés, parce que les enfants sont difficiles, et voilà. Et en fait, moi j'entends beaucoup souvent dans les familles, oui, bah c'est comme ça, mais moi aussi je l'ai dit à mes enfants. Hein. Et en fait, les enfants, s'ils comprennent pas, s'il n'y a pas de sens, ça peut pas marcher pour moi, quoi. Et je vois avec les petits dont je m'occupe, ils sont capables d'entendre la règle que je leur pose et la raison pour laquelle je pose cette règle. Et tout de suite, ça fonctionne, quoi. Voilà, ça a donné du sens pour moi, c'est ça le plus important. Ouais. C'est donner du sens à ce qu'on dit, parce que l'enfant, il a besoin de comprendre. Et s'il comprend pas, ça peut pas marcher.
Et Elisabeth, mes deux invités, acquiescent à tout ce que vous dites. Ils n'arrêtent pas d'opiner du chef.
Alors, à la nuance près que... expliquer oui, mais pas soumettre à l'approbation. Par exemple, quand on dit tu dois aller te coucher parce qu'il est l'heure d'aller dormir, plutôt que de demander on n'irait pas dormir comme font certains
oui,
parents,
c'est vrai.
Avec un enfant qui risque de dire non, bah lui il répond à une question. Hein. Lorsque effectivement on explique, hein, Elisabeth a tout à fait raison, il faut pas aller jusqu'à soumettre à l'approbation. Est-ce que tu es d'accord de respecter cette règle ? L'expliquer, c'est lui donner du sens. Ça en a toujours.
Docteur Reynaud.
Ah oui, j'ai dodeliné du chef parce que oui, donner ce sens, et aujourd'hui beaucoup d'enfants ne comprennent pas. Mais il y a des adultes non plus qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande, en fait.
Merci Elisabeth de nous avoir appelé. Pour terminer, une question de Jeanne, assez importante à mon sens. Comment accompagner les autres enfants qui sont dans la classe d'un ou plusieurs enfants perturbateurs et qui peuvent être perturbés, voire se sentir en insécurité face à ces comportements ? Un effet domino.
Ouais, ben moi j'utilise souvent cette image du porte-avions que les enseignants réutilisent ensuite en expliquant les choses, et on voit comment finalement le collectif peut, alors même si c'est pas forcément leur boulot, mais d'autres enfants peuvent sécuriser cet enfant pour venir soutenir aussi son sentiment d'insécurité. On peut construire cette solidarité autour de l'enfant, mais ça va quand même dépendre normalement de l'adulte, c'est pas aux enfants de sécuriser les autres enfants.
Juste, je précise, parce qu'on a beaucoup utilisé cet exemple du porte-avions, le porte-avions qui représente la figure d'attachement, et le petit avion, l'enfant qui part explorer son environnement. Et il y a plusieurs types de porte-avions, vous l'expliquez dans votre livre, le porte-avions prévisible, le porte-avions absent, le porte-avions inconstant ou effrayant. C'est à découvrir dans votre livre, docteur Anne Reynaud, cet enfant qui dérange à l'école, c'est publié chez Marabout. Merci beaucoup Bruno Humbeck, vous reviendrez pour parler de votre nouveau livre chez Mardaga, à paraître en avril, l'éducation à la résilience, une émission à podcaster et à partager sur les réseaux sociaux depuis l'appli Radio France et sur toutes les plateformes de streaming. Tous les extraits vidéo de Grand Bien Vous Fasse sont à retrouver sur les réseaux sociaux de France Inter et sur mon compte Instagram. Demain, escroquerie, abus de faiblesse, comment éviter les arnaques en ligne. Vous pouvez témoigner dès demain à 10h au 01 45 24 7000.